Merci Benoît Hamon est l'invité grand format de ce 7-9 ce matin sur Inter. Troisième partie de notre entretien, il est 8h19.
Matinale grand format. Listen anywhere. Sur France Inter.
Question européenne et internationale à présent avec Bernard Guetta. Bonjour Bernard.
Bonjour Patrick.
Avec d'abord Benoît Hamon, ce qui est devenu un sujet de débat intérieur ces derniers mois en France. La Russie de Poutine, c'est une menace ou un allié, un adversaire ou un partenaire ?
Écoutez, nous négocions et nous discutons avec les Russes en permanence. Croire que les ponts ont été coupés est parfaitement inexact. Il y a des discussions régulières entre Jean-Marc Ayrault, Monsieur Lavrov, et on a toujours parlé avec les Russes. Cela étant dit, il y a aujourd'hui incontestablement des prétentions de la Russie aux frontières orientales de l'Union européenne, dans le Proche-Orient, dans le bassin méditerranéen, qui sont nouvelles. Des prétentions qui s'accompagnent d'une activité qu'il faudra clarifier en matière de cyberterrorisme, comme on en parle, en tout cas de cybersécurité, puisque il pourrait qu'il y ait un certain nombre d'opérations menées de Russie qui aient pu perturber le fonctionnement des élections aux États-Unis et qui pourraient, le cas échéant, perturber le fonctionnement des démocraties ailleurs. Donc nous devons avoir, vis-à-vis des Russes, un dialogue qui repose sur tout sauf la connivence et surtout sauf une forme de faiblesse qui serait celle de la France et de l'Europe vis-à-vis d'une Russie qui cherche à défendre ses intérêts partout. Ce qui est frappant avec les Russes, c'est de voir qu'aujourd'hui, ils considèrent que leurs intérêts, finalement, sont partout. Et que vis-à-vis de cela, je pense que sur la question de la Crimée, puisque nous avons là un précédent qui est un précédent tout à fait grave en Europe, sur la question de l'Ukraine, il faut avoir non seulement un dialogue fort, mais dire aux Russes de manière très claire qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause le principe des sanctions tant que les accords de Minsk ne sont pas mis en œuvre et tant qu'on n'a pas l'Ukraine la capacité pour ce pays de retrouver la souveraineté sur la totalité de son territoire.
C'est clair, donc la priorité n'est pas de lever les sanctions adoptées après la crise ukrainienne.
Absolument.
Et vous avez parlé d'impérialisme agressif à propos de la Russie de Poutine.
Je maintiens. S'il est avéré que demain il y a des opérations de cyber-attaque contre les démocraties, de quoi parle-t-on? Je trouve que vis-à-vis de cela, la complaisance, finalement la fascination de Madame Le Pen pour Monsieur Poutine, de la même manière, la complaisance de François Fillon pour Monsieur Poutine et de bien d'autres.
De Madame Le Pen et de Monsieur Mélenchon.
Mais oui, de tous ceux qui voient dans cet exercice de pouvoir. Non, mais j'entends, mais c'est un désaccord. Moi, j'ai un désaccord avec plusieurs responsables politiques vis-à-vis de l'attitude qu'ils ont à l'égard de Monsieur Poutine. Je n'ai aucune fascination pour cette forme d'exercice du pouvoir viril qui veut qu'aujourd'hui on exprime seulement les intérêts d'un pays à travers la force. Moi je considère qu'on doit avoir de la force, mais de la force avec un objectif politique qui est de permettre à la démocratie de s'épanouir. Et objectivement, ce qui s'est passé en Syrie nous met dans une situation où aujourd'hui l'Union européenne et la France particulièrement sont mises à l'écart de l'hypothèse d'une solution politique qui se construirait autour de la Turquie, de la Russie, de l'Iran et des acteurs du conflit syrien pour partie encore, puisque M. Bachar al-Assad n'était même pas lui-même invité à la table des négociations, fort heureusement d'ailleurs, mais le régime non plus. Je pense que vis-à-vis de cela, nous devons avoir aujourd'hui, en Europe, mais particulièrement pour ce qui est de la France, une attitude qui est une attitude beaucoup plus ferme, en tout cas, vis-à-vis de la Russie, qu'on le laisse entrevoir Mme Le Pen, M. Fillon et bien d'autres.
Et bien d'autres. Bernard Guetta.
Pendant les primaires de la gauche, vous vous étiez démarqué très nettement à la fois de M. Mélenchon et de M. Montebourg en disant « Je ne fermerai pas la porte de l'Union européenne ». Pourquoi ? Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne voulez pas la fin de l'Union européenne ?
Mais parce que je veux simplement ne dire aux Français que la fin de l'Union européenne, c'est la fin tout court, non pas de la France, mais ça veut dire que nous renonçons au projet politique le plus fondateur, le plus enthousiasmant des dernières décennies, c'est-à-dire la coopération entre États européens. La fin de la coopération, c'est quoi ? C'est le retour à une compétition, à une concurrence entre nos États qui peut préparer des conflits en Europe. Moi, je considère aujourd'hui que la nécessité de relancer la construction européenne, c'est aussi la possibilité pour les Français, comme pour les Allemands, comme pour le voisin, non seulement d'une prospérité qui soit une prospérité plus grande, mais surtout de conditions de vie qui s'améliorent. Qui peut croire que la vie des Français s'améliorera si la France sort de l'Union européenne, si elle sort de l'euro, qu'à l'intérieur de nos frontières, nous
retrouvons...
Excusez-moi,
les électeurs de Mme Le Pen le pensent, mais et moi, malheureusement, je ne le pense pas. Ils sont nombreux.
Mais moi, je ne le pense pas. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il faut relancer le projet européen sur autre chose qu'une seule qu'une seule discussion sur les traités institutionnels, même si cette question est une question importante, en parlant de quoi ? D'énergie. Je propose qu'on reprenne le chemin d'un traité de l'énergie comme le proposait Jacques Delors. Je propose que nous disions aux Européens, la France dispose d'un outil de défense complet sur lequel on peut adosser une stratégie de sécurité et de défense européenne, tant sur le plan industriel que sur le plan militaire. Et enfin, pour remettre de la démocratie en Europe, je m'appuierai sur le projet de traité budgétaire que nous travaillons avec Thomas Piketty et pour voir de quelle manière, à l'intérieur de la zone euro, nous pourrions construire une assemblée démocratique qui fixe les cibles, le cas échéant en matière de lutte contre les déficits, mais surtout mettre en œuvre une stratégie d'harmonisation fiscale sans laquelle, par ailleurs, le projet européen n'a pas de sens. Pourquoi les Européens, ou les Français notamment, ne croient plus dans le projet européen ? Puisqu'ils ne voient à l'intérieur de l'Europe que compétition entre États et plus tellement le sens qu'il y avait à mettre en commun davantage de démocratie, davantage de souveraineté.
Alors justement, Benoît Hamon, question concrète sur la compétition entre États, la question Whirlpool, une usine à Amiens, 290 salariés, elle va délocaliser sa production de sèche-linge en Pologne, ce sera en 2018. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce que le président Hamon pourrait l'en empêcher ?
En l'état actuel du droit européen, vous ne pouvez pas empêcher une entreprise de délocaliser, l'Union européenne, dans la zone euro, peu importe. Pourquoi ? Parce que ce serait remettre en cause les principes qui sont ceux du droit européen et puis par ailleurs la liberté d'entreprendre. Donc nous nous retrouvons dans une situation où aujourd'hui, en absence d'harmonisation sociale et harmonisation fiscale, nous avons construit une grande zone dans laquelle finalement chaque État se livre à une compétition avec les autres États membres, à qui attirera le mieux les entreprises du voisin.
Donc là, il n'y a rien à faire.
Marine
Le Pen, par exemple, dit instaurer une barrière protectionniste, menacer Whirlpool d'une taxe de 35% pour les produits fabriqués en Pologne.
On peut mettre en œuvre toute une série de réponses qui rendent la France beaucoup plus attractive pour maintenir l'emploi et même avoir une stratégie de relocalisation. Mais la manière, disons-le clairement, aujourd'hui, d'éviter des délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne, parce que l'essentiel des délocalisations ne sont pas à l'extérieur de l'Union, mais à l'intérieur de l'Union, c'est l'harmonisation fiscale et sociale. Je vais prendre un exemple. Sur la directive détachement des travailleurs, nous voyons aujourd'hui qu'on a finalement une mise en compétition des salariés entre eux, des entreprises entre elles, grâce à cette directive qui a été renégociée dans le bon sens, qui va encore l'être, mais qui souffre de mettre en concurrence des travailleurs payés selon les règles sociales de leur pays d'origine et des travailleurs ici en France qui sont payés selon les règles sociales de la France. Tant qu'on a ce principe-là qui veut qu'aujourd'hui, on met en compétition les travailleurs entre eux, parce que les cotisations sociales sont calculées selon les règles du pays d'origine ou du pays d'accueil, nous aurons des situations qui sont des situations de forte tension en Europe et qui fabriqueront du discours anti-Bruxelles, du discours anti-européen et à juste titre. Et c'est la raison pour laquelle moi je souhaite qu'on ait et de l'harmonisation fiscale et de la convergence sociale, et que cette harmonisation fiscale commence par se construire à l'intérieur de la zone euro. La proposition que je ferai à nos partenaires allemands et européens, et de réfléchir à un nouveau traité budgétaire qui ne se fonde pas sur la volonté de la France de déroger au principe de Maastricht, qui est de dire « faisons de la démocratie ». Construisons une assemblée parlementaire de la zone euro qui, elle, légitimement, souverainement, décide des règles du jeu et non plus ce qui relève aujourd'hui du fonctionnement intergouvernemental de l'Union. Si cette légitimité démocratique existe, il est fort à parier que, parce que la zone euro va donner de la place sur le plan démographique et économique, une place importante à la France, aux pays méditerranéens, eh bien que la position des Allemands soit rééquilibrée. Pourrait-il la refuser ? En première instance, sans doute. Mais je pense que l'Allemagne, au regard de sa culture politique, ne refusera pas le pas et le progrès démocratique qui serait la constitution d'une assemblée démocratique de la zone euro parlementaire. C'est la proposition que je ferai, qui ne sera pas à prendre ou à laisser. J'accepte qu'on en discute, évidemment, et je n'irai pas à Berlin ou ailleurs en disant « écoutez, c'est cela ou rien, ça n'a pas de sens ». Mais je crois aujourd'hui que sur le traité de l'énergie, la défense européenne et le traité budgétaire européen, il peut y avoir une offre française, sérieuse, sur laquelle discuter et imaginer de quelle manière nous relançons la construction
européenne.
C'est
à peu près le discours que tenait François Hollande il y a 5 ans.
Pas sur la question de défense et d'énergie.
Non, mais sur la question budgétaire, oui.
Oui, mais justement, je pense que le défaut de la cuirasse, c'était de n'avoir adressé que cette question-là. Nous savons que c'est un point dur pour l'Allemagne. Si nous n'avons pas d'autres propositions à faire que de renégocier les conditions de mise en œuvre, en gros, des traités tels qu'ils sont pour la France. Si nous ne posons pas l'exigence d'une nouvelle étape démocratique, ce que je fais, mais à côté que nous n'envisageons pas de quelle manière les Européens peuvent se retrouver sur un projet commun. La transition énergétique et écologique, elle concerne tout le monde. La sécurité des approvisionnements pour la partie orientale de l'Union européenne, la manière de mieux coopérer entre États et de valoriser l'innovation technologique en Europe dans le domaine énergétique. Nous avons là un beau sujet pour fabriquer à nouveau du commun. C'est ainsi que nous avons fait la communauté européenne du charbon et de l'acier. Sur des projets communs, je propose à nouveau que nous reprenions ce chemin.
Benoît Hamon, à l'échelle mondiale maintenant, est-ce que vous vous rangez ou pas du tout parmi les adversaires du libre-échange, comme M. Trump, comme Mme Le Pen, comme bien d'autres?
Je pense qu'il faut changer les accords de libre-échange tels qu'ils existent aujourd'hui. Les accords de libre-échange type CETA, TAFTA, sont à rebours des engagements qu'on a pris dans les accords de Paris sur le climat.
Ils ignorent tout à fait les mêmes, TAFTA et CETA. Hein.
Non mais d'accord, mais ils ignorent la dimension environnementale. On ne peut pas d'un côté signer la COP21 avec un objectif qui est de réduire aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer en gros la propreté de notre modèle de production, et signer des accords de libre-échange dont on sait qu'ils ont tous un impact négatif sur l'environnement.
Donc M. Trump a eu raison de rompre le traité de libre-échange pacifique.
Il le rompt pour d'autres raisons. Moi, il me semble que les Européens, parlons clairement, tant qu'ils n'auront pas défini entre eux ce que sont les intérêts fondamentaux qu'ils ont et qu'ils veulent protéger. Que voulons-nous protéger? Eh bien, nous ne pouvons pas signer d'accord de libre-échange avec un pays et une économie aussi puissante que les États-Unis sans que cet accord soit en défaveur des Européens. Et objectivement, les estimations de grains de croissance que nous proposait la Commission européenne sont ridicules au regard des dangers auxquels s'expose l'Europe si elle s'ouvre à un nouvel accord de libre-échange avec les Américains. Donc moi, je considère que la nouvelle génération d'accords commerciaux doit reposer sans doute sur la baisse des tarifs douaniers qui peuvent être opérés entre deux grandes économies, mais des exigences fortes sur les modèles de développement et qui comportent des dimensions environnementales et écologiques. Sans quoi, eh bien, ces accords de libre-échange remettraient en cause tous les traités que nous avons pu signer, notamment en matière de transition écologique.
Merci Bernard Guetta. Benoît Hamon, vous restez avec nous. L'interview grand format se poursuit dans quelques minutes avec les questions des auditeurs qui nous appellent au 01 45 24 7000 et qui interviennent à peu près sur tous les canaux possibles, appli France Inter et mail d'auditeurs, évidemment. Et puis tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Il est 8h31.